Vous écoutez Radio Panique.
Chers auditeurs de Radio Panique, bonjour et bienvenue à notre seconde émission consacrée au tarot, qui s'appelle Le Chariot, dédiée aux usages du tarot de tout temps et désormais présentée tous les premiers lundis de chaque mois. Je suis Zena, et dans la demi-heure que nous allons passer ensemble, je vais essayer de vous faire partager avec passion cette discipline, thème qui me tient à cœur. Comme vous pourrez vous en douter, il existe de nombreuses théories sur l'origine des tarots, comme déjà raconté lors de notre émission précédente, attribuant au tarot une grande diversité d'origines, allant de l'égyptienne en passant par la bohémienne, l'arménienne, l'influence chinoise et indienne ou encore européenne, faisant que tout le vieux monde se trouve au final concerné dans la naissance et les origines historiques du tarot. Il n'est pas toujours simple de dissocier ce qui tient de la réalité ou du mystère, charme qui donne envie de découvrir l'essence même du tarot. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le tarot de Marseille. Après avoir le mois passé raconté les origines du tarot Visconti, un des plus anciens tarots existants, dont le podcast de notre première émission se trouve sur la page Le Chariot de la Radio Panique. Les tarots dits de Marseille sont effectivement des voisins très proches du tarot de Visconti, qui d'ailleurs, comme certains le disent, sont toutes parmi les cartes anciennes européennes qui ont leurs racines dans un jeu oriental de Mameluk. Car il existe dans ces cas certaines références en fin du XIVe siècle qui parlent du jeu de naibs, qui en espagnol et en portugais sont devenus les mots naipes, qui en français veut dire « carte jouée ». Le tarot de Marseille est donc de nos jours assurément, par son graphisme, sa symbolique et sa popularité, l'un des jeux de tarot le plus ancien et répandu au monde. Pour autant, de nombreuses controverses subsistent à son sujet. Tenez, prenez par exemple. Certains disent que le tarot de Marseille existe depuis le XVIIIe siècle, mais cette théorie est largement contestée, car l'histoire même de Marseille et de son port, connue mondialement, montre l'ancienneté qui accompagne cette ville et le contact avec l'étranger qui a apporté à cette ville et à l'Europe des richesses de tous les coins du globe, et l'une d'entre elles se trouvait être, comme vous pouvez vous en douter, des cartes jouées que les Marseillais, qui sont mondialement connus pour leur talent et technique de travailler le bois, ont immédiatement produit et adopté, façonnant leur propre moule pour les cartes à jouer. Faisons une parenthèse ici pour expliquer que ce métier de quartier était un métier considéré médiocre et sans importance, niveau où l'on trouvait sculpteurs et bien d'autres métiers d'artistes. Heureusement, ce regard a bien changé depuis. Comme vous l'aurez compris, cette théorie est donc prise au sérieux par de nombreux spécialistes en tarologie. À ce sujet, ce que dit Philippe Camoin, l'héritier de la tradition des derniers maîtres quartiers marseillais, est éloquent. Il dit « Ainsi, prenons l'ancien tarot de Marseille, dont l'exemple le plus représentatif est celui de Nicolas Convert, 1760. C'est le seul tarot d'Europe qui contient dans l'ensemble de ses cartes les constructions géométriques caractéristiques et respectant scrupuleusement les techniques propres aux bâtisseurs romans, les constructeurs des cathédrales. Cette géométrie sacrée fait intervenir un nombre particulier pi égale 1,618, appelé nombre d'or, et qui a été retrouvé dans l'étude architecturale de la pyramide de Khéops. Il y poursuit en ajoutant de même une découverte archéologique récente du 9 avril 1999 à Orange d'un important mausolée du 1er siècle qui prouve de façon indéniable que le sphinx ailé que l'on retrouve dans la roue de fortune Arcane 10 entre les arcanes majeurs du tarot de Marseille faisait partie intégrante des cultes pratiqués à Marseille et ses environs. Il existe également d'autres codages subtils qui forment un ensemble cohérent dans les vieux tarots de Marseille. Ce codage fort complexe interconnecte l'ensemble des cartes tant par les couleurs que par les symboles. Il ne se retrouve pas dans les autres tarots anciens. Les paroles d'un des plus grands spécialistes sont empruntées à des sources de Wikipédia ainsi que du livre « La voix du tarot » de Jodorowsky. Donc, pour certains, mes chers amis auditeurs, le tarot de Marseille est bel et bien né en France et a été importé en Italie et pas l'inverse. Et en cela, Philippe Camoin ne s'arrête pas là. Il poursuit en racontant que les moules en bois de Poirier du tarot de Nicolas Convert constituent la fameuse édition conservée à la Bibliothèque nationale de France. Il raconte encore qu'il existe un autre tarot de Marseille beaucoup plus ancien que cela, fabriqué par François Chausson, daté de 1672, qui se trouve actuellement conservé en Suisse dans un musée à Soleure et dont personne ne savait qui en fut l'auteur. Mais grâce à des documents laissés par des ancêtres de M. Camoin, on a pu prouver que ce dit M. Chausson aurait pu faire partie d'une des dynasties de maîtres cartiers marseillais de plus importantes. Monsieur Camoin insiste encore dans ce sens en affirmant qu'il peut prouver que le tarot de Marseille est peut-être ancien de plus de 1000 ans par des symboles qu'il amène avec lui, contenant toute une série de codes secrets présentés dans la structure même du tarot de Marseille, cela lui permettant de dater ce symbolisme comme étant du 1er siècle ayant une éventuelle origine marseillaise. Quant à moi, humblement, je crois que cette discussion de spécialistes n'aura jamais fin, car chaque pays revendiquant spécifiquement avoir l'origine de ce jeu si complexe et en même temps passionnant, et ceux-ci trouveront toujours les moyens de dire que l'autre a tort, et il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit concrètement. Et nous continuons à nous amuser avec toutes ces théories, en espérant toujours que quelqu'un qui sait, un jour, trouvera dans une vieille boîte, retrouvée au fin fond d'un grenier, perdue dans une vieille maison, de jeux de cartes vieilles comme le monde, celles-ci pouvant alors peut-être nous éclairer un peu plus à ce sujet. Maintenant, faisons une petite pause musicale en un hommage au 96e anniversaire de la disparition du compositeur français Eric Satie, qui s'est éteint à Paris le 1er juillet 1925. Et donc, je vous propose d'écouter maintenant un cycle de 3 mélodies, en sa première intitulée « La statue de bronze ». Nous nous retrouverons juste après.
Avec le savon.
Après avoir écouté cette belle mélodie, la statue de bronze, ici interprétée par la grande mezzo-soprano américaine, la regrettée Jessie Norman, revenons à notre causerie de ce jour au sujet du tarot de Marseille sur Radio Panique et vous êtes à l'écoute de l'émission Le Chariot. Ces cartes ont bâti leur réputation en tant que cartes divinatoires depuis le XVIIIe siècle et le premier à l'utiliser en tant que tel, ces cartes, s'appelle Cours des Gébelins. Écrivain et érudit du XVIIIe siècle, nous laissons dans son œuvre célèbre Le Monde Primitif la première étude de l'histoire du tarot divinatoire, devenant ainsi les fondateurs de la divination par le tarot. Cela dit, il faut toujours relativiser au sujet du tarot, car vous trouverez toujours personne convaincue que le tarot de Marseille est très 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 vieux, croyant en cela que les créateurs des premières cartes étaient érudits des religions catholiques, hébraïques et musulmanes qui se trouvaient à Marseille en l'an 1000 pour préserver ainsi leur connaissance de choses saintes et sacrées, ont créé un enjeu de cartes plein de symboles et de codes pour préserver une sorte de sagesse philosophique ayant peur de se perdre avec le temps, jeux ne pouvant alors être déchiffrés que par des connaisseurs du même genre. L'appellation tarot de Marseille est utilisée une première fois par Gérard Anaclet Vincent Encausse, dit Papus, médecin et occultiste français du XIXe siècle, puis s'est popularisée à partir de 1930 par Paul Marteau, docteur en philosophie, maître Cartier, collectionneur et héritier de la famille des maîtres Cartier-Grimaud, qui choisit d'intituler son tarot destiné au marché de la cartomancie Ancien tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes ou arcanes, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Les arcanes mineurs nous permettent de regarder ce qui advient ici maintenant, la vie matérielle, mais qui touche nos émotions et nos psychés, nos besoins, nos désirs. Les arcanes majeurs, quant à eux, nous montrent quelque chose de plus humain et universel qui tient en l'aspect plus spirituel de l'être. Et les deux se rassemblent pour former un tout, une histoire, l'histoire de chacun de nous. Les arcanes mineurs se présentent par quatre suites comme la majorité des cartes de tarot, voulant dire la suite de deniers qui a comme élément correspondant la terre et a un rapport au domaine financier, la suite d'épées qui correspond quant à elle l'élément air et qui s'associe à l'intellect, la suite de coupes qui correspond au cœur et est associée à l'élément eau et celle des bâtons qui correspond à l'élément feu et s'associe à l'action et au domaine professionnel. Alexandre Iodorovski, auteur du livre « La voix du tarot », un des plus célèbres et actuels écrivains sur la matière du tarot de Marseille, dit que les deux schémas sont initiatiques et complémentaires. Il affirme que les arcanes mineurs, avec leurs quatre couleurs, sont comme les quatre pieds d'une table, d'un autel ou les quatre murs d'un temple, associant ainsi les arcanes mineurs à une base bien solide pour tenir une vérité qui se trouve en nous-mêmes. Mais que pouvons-nous bien dire en l'évocation de couleurs du tarot de Marseille? Actuellement, il a été prouvé scientifiquement que les couleurs ont un pouvoir de guérison sur nous les êtres humains et que, dans l'environnement naturel qui nous entoure, chaque couleur vibre d'une certaine manière et possède une énergie électromagnétique distincte. Les thérapies des couleurs sont regroupées sous la dénomination, par certains encore contestée, la chromatothérapie et des formations pour devenir thérapeute en cette discipline se multipliant ces dernières années. Mais les spécialistes alchimistes des temps immémoriaux savaient déjà que les couleurs avaient un rôle important à jouer sur notre santé et notre bien-être. Donc, les couleurs du tarot de Marseille n'ont pas été choisies au hasard. Voici quelques explications à ce sujet, explications que sont toujours à relativiser, car ici, dans l'émission Le Chariot, nous n'avons aucune prétention de faire une étude approfondie au sujet des couleurs. Ce thème vaste de couleurs peut varier par rapport à la culture de chaque peuple et concernant un éventuel point de vue personnel, chacun bénéficiera alors d'une vibration unique rapportée à une couleur et une caractéristique propre. Il est de coutume que le 7 soit le nombre de couleurs trouvées dans le tarot de Marseille le plus ancien. Cela peut changer par rapport aux éditions plus modernes où nous pouvons observer d'autres couleurs comme le violet ou l'orange. Mais nous allons analyser les caractéristiques plus traditionnelles. Mais entrons plus spécifiquement dans la signification de chacune de ces couleurs. Le bleu. Couleur qui a comme symbolisme l'inconscient et le psychisme. Le bleu sombre symbolise la naissance, le côté le plus primitif de notre inconscient profond, l'obscurité encore non achevée. C'est une couleur qui se trouve dans presque toutes les cartes des arcanes majeurs. Le bleu clair est associé à l'élément air, à l'infini, à ce qui est insaisissable. Elle représente le domaine spirituel et la profondeur du psychisme. Cela a à voir avec l'émotionnel. C'est une couleur neutre et dans le tarot de Marseille, elle est associée à la réceptivité. Le vert. Il y a également sur ce tarot de Marseille deux nuances de cette couleur, le vert foncé et le vert clair. C'est une couleur qui représente la renaissance, le renouveau, la mutation du corps et de l'âme, la force vitale. Donc, tout ce qui est matériel et terrestre. Le vert clair représente l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il symbolise la nature, c'est le renouveau, le printemps, la jeunesse, c'est le symbole de la fertilité. Le vert foncé, une des premières couleurs apparues dans le symbolisme de couleurs, est une couleur qui parle de la création, la terre fertile, puissance vitale, c'est la connaissance profonde de choses. Le jaune symbolise le divin et le rayonnement personnel. Cela parle des métamorphoses et de transformation par le travail personnel. C'est la couleur assimilée à l'or et à ce qui est précieux. Le soleil, par exemple, qui nous réchauffe et fertilise la terre. C'est la couleur de la révélation, d'une intuition qui s'éclaircit. Le rouge. C'est la phase féconde, c'est le moment de la réalisation de soi. Cette couleur représente les liquides, comme le sang ou l'eau. C'est l'accomplissement, la puissance, la force, le côté matériel des choses, le côté actif. C'est aussi la couleur qui représente l'amour, la passion et le désir. Mais c'est aussi le symbole de la violence, l'ambition démesurée et toute force animale. La couleur chair, elle représente le corps humain dans le tarot de Marseille qui représente le peuple européen, car il faut savoir et se rendre compte qu'il existe d'autres tarots qui dessinent l'être humain avec d'autres couleurs de peau. Nous en parlerons dans une des prochaines émissions, Le Chariot. La couleur chair est donc une couleur qui parle de ce qui est vivant, la chair humaine, la condition humaine symbolisant les sentiments et les sens. La couleur blanche. Le blanc dans ce tarot de Marseille dessine le fond des cartes. Normalement, on ne l'interprète pas dans ce tarot, mais celle-ci incarne la pureté, la divinité du personnage ou de la scène décrite. C'est aussi le symbole de la lumière qui nous amène à l'unité, à l'univers d'où nous sommes tous issus, pour ceux qui y croient. C'est la création première. Mais cela peut être aussi la stérilité, le froid, l'absence et la mort. La signification de la couleur noire. C'est de là que renaît la vie, c'est la couleur de la terre, de l'inconnu, de tout ce qui est caché. C'est l'absence de lumière ou l'absorption de la lumière et de la matière. C'est l'arrêt, le non-mouvement, le trou noir. Toute création vient de l'ombre. C'est la première phase d'une œuvre, c'est le premier souffle, mais aussi le concret de la matière, la matrice de notre existence. Voilà, chers amis, ce que j'ai voulu vous raconter au sujet de la symbolique de couleurs, ici évoquée brièvement, mais vous pouvez toujours en trouver d'autres détails dans une littérature pleine de créativité à ce sujet, débordante actuellement dans les meilleures librairies. Écoutons en une seconde pause musicale qui s'impose la deuxième mélodie d'Aphénéo du cycle d'Erik Satie. Reprenons notre émission Le Chariot, diffusée chaque premier lundi du mois sur la radio qui vous amuse, la Radio Panique, en vous présentant l'arcane de numéro 1 qui s'appelle en français le Battleur. Les interprétations et significations de chaque arcane peuvent être immenses, infinies, émergentes et grandies dans l'inconscient au fil des ans. Et si voulant, avant de finir notre émission en une dernière partie, d'évoquer les aspects les plus connus, répandus et interprétatifs. Le Battleur porte le numéro 1. Ce chiffre dans la numérologie contient la totalité, la puissance. Il est le point de départ dans ce cheminement qui emprunte le mat. La carte sans numéro dont nous avons beaucoup parlé dans notre émission précédente. Cet arcane numéro 1, le Battleur, présente un jeune homme debout derrière sa table de travail, table qui ne présente que 3 pieds, voulant peut-être dire que rien n'est solide et permanent sur Terre. L'instabilité des choses peut-être. Et sur cette table, des outils et substances qu'il manipule, c'est le portrait de l'alchimiste qui cherche le mélange parfait. Il travaille avec l'ombre et la lumière, avec le conscient et l'inconscient. Dans sa main droite, il tient un denier qui montre que le battleur prévoit sa vie matérielle. Dans sa main gauche, il tient son bâton, indiquant qu'il possède les outils nécessaires pour construire sa vie. Sur cette carte, on retrouve disposés sur la table de travail les 4 éléments du tarot de Marseille, le denier, un petit bâton, une épée et une coupe. Ces 4 éléments symbolisent bien sûr la terre, le feu, l'air et l'eau. Il a la connaissance et les outils pour améliorer toujours. Il connaît la sagesse et est le maître de son travail. Mais pour l'instant, il n'accomplit rien, mais il expérimente. Le pouvoir se trouve donc dans ses mains, le pouvoir de transformer une situation ou une croyance, par exemple. Attention, car cette manipulation peut être constructive, mais aussi négative, quand il s'agit, par exemple, de la manipulation de quelqu'un. En ce qui concerne la transmutation des énergies, le battleur est créatif, inventif, intelligent, mais ce personnage doit faire attention de ne pas tomber dans la vanité et les choses superficielles ou narcissiques. Il a une capacité de persuasion, car il sait qu'il est difficile de ne pas tomber sous son charme. Personnage très charismatique, les portes lui sont ouvertes et il ne perd pas l'opportunité de faire de nouvelles expériences de la vie. Il cherche à se placer dans le monde humain, à trouver des solutions pour sa vie matérielle. C'est donc aussi une carte qui évoquera toutes les questions concernant une profession, l'emploi et le travail. Le bateleur symbolise le commencement de quelque chose, d'un projet. C'est la première idée de celui-ci. Il sait utiliser son intuition pour créer un nouveau départ. C'est l'arcane de la jeunesse, de ce qui est nouveau. Il vit dans le moment présent. Faisons encore une dernière pause musicale. On l'écoute de la mélodie Le Chapelier, interprétée toujours par Jesse Norman. Et voici, bien chers amis, avant de nous quitter, quelques mots-clés à retenir pour le bateleur. Énergie, jeunesse, commencement, talent, compétence, opportunité, amusement, beauté, créativité, intelligence, transmutation, séduction, ouverture d'esprit, arcane positive. Mais il peut se transformer en négatif s'il devient manipulateur, inconséquent, vaniteux ou narcissique. Le bateleur est un personnage très agile, il a le sens de la concentration et il connaît son pouvoir. Dans le tarot de Marseille, le bateleur se trouve dans un paysage rempli de végétation, près d'une vallée qui montre qu'il est plein d'énergie et de force vitale. C'est une carte active, il est montré en pleine création. Il porte un chapeau rappelant la forme du numéro 8. Son chapeau dessine une forme de spirale, ruban de Möbius, comme symbole de l'infini. Le bateleur, c'est une promesse à devenir. Voilà, chers amis, ce que j'ai voulu vous raconter aujourd'hui au sujet du tarot de Marseille. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission Le Chariot, qui se passera le 2 août, donc d'ici un mois, occasion durant laquelle je vous parlerai du tarot de Aleister Crowley, occultiste, homme de lettres, érudit, et Rider-Waite, poète et occultiste anglais. Je vous laisse en compagnie de la musique électronique et hip-hop, Terra Tom. Merci de votre fidélité. Bye bye et à la prochaine.